Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ah, 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 pitié, au secours! Qui se lamente ainsi? Quelle est cette voix lugubre? Je suis le mauvais riche. Et que veux-tu? Que demandes-tu? Je demande à Lazare de tremper l'extrémité de son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue, parce que je souffre les ardeurs du feu. Le mauvais riche se plaint du feu qui dévore sa langue, plus que de tous les autres tourments, parce qu'il s'est adonné à la médisance, et que, pour cette raison, le supplice de sa langue est le plus cruel. Puisque nous voici au cœur de l'été, au moment des plus grandes chaleurs, parlons de la médisance qui peut nous mériter ce feu qui tourmente la langue du mauvais riche. Nous nous inspirerons du sermon de Saint Léonard de Port-Maurice que vous trouverez sur la table de presse. Nous verrons que le péché de la langue est le plus facile à commettre, le plus difficile à guérir, le plus digne de châtiment. L'homme est ingénieux pour inventer des armes de plus en plus sophistiquées et de plus en plus difficiles à neutraliser. Mais la langue est encore plus ingénieuse. Elle sait attaquer son adversaire de mille et mille manières. Et ce qui rend ses attaques plus faciles, c'est qu'elle agit généralement dans l'ombre ou sous le couvert de l'hypocrisie. On ose attaquer de front. On fait même mine de louer la personne et à la fin, on glisse quelques paroles lourdes de sous-entendus. On peut médire par un silence calculé, comme ces chiens qui mordent sans aboyer. Il suffit de se taire quand il faudrait parler. Autour de nous, on dit du bien de notre prochain, et nous ne disons rien, prenant un air dégagé ou l'air de quelqu'un qui en sait long, mais ne dit rien. Grâce à Dieu, dira quelqu'un, je ne suis pas de ces gens-là. Je loue ceux dont on me fait l'éloge. Je les loue froidement, il est vrai, mais cependant je les loue. Et moi je dis qu'une louange si froide déchire aussi à sa manière la réputation du prochain. Au lieu de diffamer en blâmant, vous diffamez en louant. Vous louez comme les autres, mais avec tant de réserve qu'on voit bien que vous n'êtes qu'une vipère qui voudrait mordre sans laisser aucun signe extérieur de blessure. Vous avez raison, mon père, tenez contre ces scorpions qui semblent vous embrasser pour vous donner la mort. Pour moi, je ne fais pas ainsi. Je loue quiconque est digne d'éloge, je le loue beaucoup, mais je vous entends. Vous êtes comme ces sorcières malignes qui ensorcellent les enfants en les caressant. C'est là, en effet, la perfection de l'art pour les détracteurs. Ils veulent ruiner la réputation du prochain. Que font-ils? Ils commencent leur perfide discours par des éloges magnifiques. Puis, avec un « mais », ils renversent tout. Trouvez-moi maintenant un vice dans lequel on tombe plus aisément que dans la médisance. Puisqu'il y a tant et tant de manières de médire. On médit soit en disant la vérité, soit en mentant. On médit en parlant et en se taisant. On médit en louant et en blâmant. On médit par envie, par ressentiment et même par charité. Mais pourtant, ce n'est pas seulement contre les médisants qu'il faut s'élever. Il faut encore reprendre ceux qui ne se font aucun scrupule de les écouter. Qui, en effet, aurait l'envie de médire si toutes les fois qu'un médisant ouvre la bouche, personne ne l'écoutait, personne ne lui répondait un seul mot? Si quelqu'un commence à vous parler mal du prochain, interrompez-le et demandez-lui s'il a fait passer ce qu'il a à vous dire par les trois tamis. Le premier tamis est celui de la vérité. Mon ami, avez-vous contrôlé si ce que vous voulez me dire est vrai? Non, je l'ai entendu raconter et... Bon, vous n'avez entendu qu'une cloche et elle est peut-être un peu fêlée. Essayons le deuxième tamis, celui de la bonté. Ce que vous voulez me raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon? Non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire. Essayons de nous servir du troisième tamis et voyons s'il est utile de me raconter ce que vous voulez me dire. Utile, pas précisément. Eh bien, si ce que vous voulez me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir. Et quant à vous, je vous conseille de l'oublier. Outre qu'il ne faut plus causer de dommages à l'avenir, il faut réparer celui qu'on a fait. Nous voici arrivés au point délicat. Et vous allez comprendre qu'autant la médisance est facile, autant il est difficile d'y remédier. Oui, le péché de la langue est le plus difficile à guérir. Il est incontestable que la médisance est un vol, et le vol du trésor le plus précieux, celui de la réputation. Elle ne peut donc être remise sans une restitution équitable, et c'est là le nœud de la difficulté. Ou vous avez révélé un défaut réel mais caché, ou vous avez dit ce qui n'est pas. Dans ce dernier cas, vous voilà obligé de rétracter votre fausse imputation et de déclarer que vous avez été un menteur, ou du moins d'avouer que vous avez parlé en homme imprudent et inconsidéré. Si vous avez révélé un défaut réel, mais caché, nouvelle perplexité, car il faut réparer le tort fait à la réputation du prochain sans recourir au mensonge. C'est ici que les confesseurs ont besoin de toute leur patience et de toute leur discrétion pour trouver le moyen de ménager la chèvre et le chou. De remettre le prochain en possession de l'estime sans rien dire qui blesse la vérité. Les théologiens vous diront de le louer sous quelque autre rapport afin de dissiper ainsi les idées fâcheuses que vous en avez fait concevoir. Tout cela est vrai, mais il arrive rarement qu'une blessure faite à la réputation ne laisse point de cicatrice, même après la guérison. D'une manière ou d'une autre, il faut vous rétracter. Moi, me rétracter? Qui dit cela? Tout le monde vous le dit. Théologien, docteur, saint-père, vous n'en trouverez pas un seul qui vous dispense de cette obligation. Pas de rémission sans restitution. Ici, pas de milieu. Ou vous rétractez, ou vous damnez. Mais votre âme, il faut y penser. Ou vous rétractez, ou vous damnez. Oh, quelle perplexité, n'est-il pas vrai? Eh bien, je me rétracterai. » Vous vous rétracterez, il est vrai, mais qu'il est difficile de remettre en possession de sa bonne renommée celui qui en a été dépouillé par vos médisances. Vous faites une médisance. Celui-ci vous écoute, mais il ne s'en tient pas là. Vos détractions passent de bouche en bouche en se déformant, en s'exagérant. Recueillez-les si vous pouvez. Lorsque vous jetez une pierre dans un étang, elle y forme d'abord une ondulation très restreinte. Celle-ci en produit une autre plus grande, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la surface de l'eau soit en mouvement. Vous lâchez un mot, une parole qui atteint la réputation du prochain. Elle produit une ondulation, celle-ci en engendre une autre, la seconde une troisième, et le cercle va toujours s'agrandissant à tout le voisinage, à toute la terre maintenant, grâce à Internet qui facilite les choses, puisqu'il permet de médire sous couvert de l'anonymat. Essayez maintenant de retirer la pierre, de défaire le cercle où circule la honte du prochain, si vous en êtes capable. Enfin, quand on se décide à se rétracter, ne se contente-t-on pas le plus souvent de quelques paroles générales? Après avoir discrédité, déchiré, taillé et mis en pièces l'honneur du prochain, on croit satisfaire aux règles de la justice par quelques paroles vagues. J'ai dit cela dans un mouvement de colère. La passion m'a emporté. Je l'ai entendu dire. Erreur. Vous devez dire clairement. Ce que j'ai dit n'est pas vrai. Le fait ne s'est pas passé de la sorte. Telle personne n'est pas coupable en ce point. Enfin, le péché de la langue est le plus digne de châtiment. Continuez à médire. Continuez à exercer votre malice contre le prochain, mais n'en doutez pas, un digne châtiment vous attend. La justice divine, à votre lit de mort, vous fera endurer un enfer anticipé. Là, vous vous débattrez comme une furie et vous rugirez comme une bête féroce. Votre âme sortira de ce monde sans un prêtre pour l'assister, sans sacrement pour vous fortifier dans votre agonie. Et vous irez avec le mauvais riche traîner cette langue maudite sur les pavements brûlants de l'enfer. Et Dieu veuille que vous ne soyez pas emportés par une mort subite et imprévue qui rendrait votre perte infaillible. N'est-ce pas, en effet, le châtiment ordinaire des détracteurs? Écoutez ce que dit l'Esprit Saint dans le livre des Proverbes. « Crains le Seigneur, mon fils, et ne te mets le poing aux détracteurs, parce que leur perte arrivera subitement. » Oui, les détracteurs ont coutume de mourir à l'improviste, et c'est avec raison. Car ayant agi en traître, il est juste que la mort, qui est seule capable en ce monde de réduire au silence leur langue maudite, les surprenne aussi par trahison. Mais pourquoi la justice de Dieu est-elle si rigoureuse à leur égard? C'est parce qu'il les a en abomination. Il n'est rien au monde que Dieu haïsse plus que le médisant, dont le naturel est diamétralement opposé au sien. Dieu, en effet, est charité. Deus caritas est. Le médisant, au contraire, n'est que malice et venin. Dieu est d'une amabilité, d'une prévenance infinie, toujours attentif à voiler nos fautes aussi longtemps que nous vivons. Le médisant, au contraire, semble n'avoir autre chose à faire que de publier les faiblesses les plus secrètes de son prochain. Dieu est tout enclin à la bonté, à la miséricorde. Le médisant est plein de dureté et sans pitié pour les moindres écarts de son prochain. Ah, malheureux calomniateur, comment la langue ne vous sèche-t-elle pas dans le palais? Combien il vaudrait mieux pour vous qu'elle fût dès cette vie rongée par les vers, comme il arriva à un de vos pareils. Vous auriez peut-être le bonheur de ne pas l'avoir brûlé et déchiré pendant toute l'éternité par les démons en enfer, comme celle de ce médisant de profession qui apparut après sa mort à un de ses amis. Il se fit voir environné de démons sous forme de serpents qui le perçaient de toutes parts avec des langues armées de trois dards. Il y sortait de la bouche une langue énorme qui pendait jusqu'à terre, et une autre bande de démons s'acharnait à le tourmenter. L'un en la serrant avec des tenailles brûlantes, l'autre en la taillant avec des ciseaux de feu, et lui-même se la déchirait en morceaux avec les dents. Puis ces morceaux se réunissaient pour être coupés et déchirés de nouveau pendant toute l'éternité. Si par le passé nous nous sommes laissés aller à des médisances, quel remède faut-il employer? Celui-là même que Moïse employa contre les serpents de feu, image des détracteurs. Ce remède, ce fut que tous regardent le serpent d'airain qu'il fit élever sur une espèce de croix et dont la vue seule guérissait les blessés. Mais disant, s'il y en a ici, si vous voulez éteindre les serpents de feu et faire perdre à votre langue son venin malfaisant, levez les yeux et regardez l'homme Dieu élevé pour vous sur l'arbre de la croix. Remarquez comme tous ces membres sacrés vous apprennent à réprimer votre langue. Ces yeux divins, voilés pour l'amour de vous, ne vous disent-ils pas de fermer les vôtres sur les défauts du prochain? La plaie sacrée de ce cœur, percé et ouvert pour votre salut, ne vous avertit-elle pas de fermer votre bouche envenimé par une haine maligne? Les lèvres éloquentes du Verbe incarné, réduites pour vous au silence par la mort, ne vous disent-elles pas de condamner au silence vos langues calomniatrices? Voulez-vous conserver votre conscience en paix pendant la vie et à la mort? Ne vous laissez jamais aller à aucune médisance, ni grave, ni légère. Ayez sans cesse devant les yeux cette belle maxime. Ne parlez jamais, ni peu, ni beaucoup, des fautes d'autrui. Langue chrétienne, langue sur laquelle Jésus-Christ a reposé tant de fois, langue si souvent empourprée de son sang précieux, ne parlez jamais, ni peu, ni beaucoup, des fautes d'autrui. Cette salutaire maxime vous servira pendant la vie, à la mort et pour toute l'éternité. Que Notre-Dame, si attentive à garder sa langue pure de tout péché, nous aide à tenir cette résolution. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.